moi, je suis Catherine Loisy, donc je suis enseignante-chercheure à l'IFE, l'Institut français de l'éducation, depuis une dizaine d'années. Je suis membre de l'équipe Léa, du comité, donc ça vous m'avez vu tout à l'heure, du comité de pilotage des Léa, du comité scientifique des Léa. Je suis impliquée dans ce réseau depuis sa création, donc à partir d'une idée de Luc Trouche dans le contexte de la création de l'IFE, dont il était directeur adjoint chargé de la recherche, ou je ne sais pas exactement quelle était la formulation du statut, d'impliquer des établissements associés aux recherches plutôt que des enseignants isolés. Le travail avec des enseignants, le travail entre enseignants et chercheurs étant déjà quelque chose qui était problématisé au temps de l'INRP. J'étais pour ma part impliquée dans deux projets de Léa, donc un Léa qui était implanté dans le lycée Germaine Tillon de Saint-Bel, parce qu'il y a un autre lycée Germaine Tillon aujourd'hui dans le Rhône, qui portait un projet sur l'identité numérique et l'orientation. C'est un projet qui s'est mis en place au lancement du réseau des Léa. Je vais y revenir après pour ce qui concerne les travaux menés en lien avec le développement professionnel, la problématique que j'aborderai aujourd'hui. Les travaux menés dans ce Léa ont contribué à fournir des ressources pour les professionnels, en particulier au départ, et vous allez voir pourquoi, un parcours performance qui aurait pu devenir un parcours magistère. Et bien sûr, du point de vue scientifique, je n'en parle pas trop maintenant puisque ce sera l'objet. En tout cas, ces travaux ont permis pour moi l'émergence d'un nouveau questionnement sur le développement professionnel potentiellement permis pour les acteurs des recherches qui impliquent des travaux entre enseignants et chercheurs. La conception d'une méthodologie que je présenterai en deuxième partie, et puis bien sûr de nombreuses communications professionnelles et scientifiques, collectives ou non, et puis ont nourri l'activité des acteurs du Léa. Un autre Léa, le deuxième, c'était un Léa qui était implanté dans le supérieur. C'était un Léa implanté dans le pôle ITIS de l'ESPE de Lorraine. Ça s'appelait ESPE à l'époque. Un Léa qui portait donc sur la construction en actes et réflexifs des compétences numériques des enseignants. Alors, les travaux qui ont été menés dans ce Léa, ils nous ont permis de concevoir deux artefacts pour soutenir la construction des compétences numériques en formation initiale, mais surtout, ils ont nourri notre travail et celui d'un collectif donc réuni par trois ministères, DGESCO, DGESIP et puis la DNE, sur les compétences numériques des enseignants. Et sur la refonte en particulier de ce qui s'appelait le C2I2E. Ces deux exemples, en tout cas, ils illustrent que l'activité menée dans les Léa peut être diversement orientée et fournir des résultats, du point de vue professionnel, relativement variés. Alors mon propos aujourd'hui, je vais parler du développement professionnel qui peut être entendu de différentes manières. Donc je vais essayer de vous situer où je me place moi du point de vue de la recherche sur cette question du développement professionnel. Donc du point de vue de la psychologie du développement et de la théorie de l'activité. Cette approche nous fournit un cadre pour d'analyse des systèmes d'activité. Donc les systèmes d'activité sont en mouvement, en contradiction interne, je vais vous montrer comment j'attrape cette question des contradictions. Et pour conclure, je parlerai de l'activité enseignante, des enseignants et des chercheurs, et j'interrogerai les interactions entre leurs systèmes d'activité lorsqu'ils sont impliqués dans une recherche où on travaille ensemble autour d'un même objet. Alors parfois, je dirais recherche collaborative pour parler de ces travaux où des enseignants, des chercheurs, d'autres acteurs sont impliqués autour d'un même objet, mais je ne problématise pas la question de la recherche collaborative. Une entrée sur le développement. Je parlerai de la recherche INO qui s'est déroulée dans les Tillons de Saint-Bel. Je parlerai des trajectoires de développement et j'essaierai de, si le temps me le permet encore, d'apporter une petite conclusion. Alors, donc le développement professionnel, je vais en donner une définition. Oula, j'ai pas vu que j'avais mis un pardon. Et voilà. Donc le développement professionnel, l'expression est employée pour faire référence à deux visions qui sont relativement différentes. Une vision axée, on va dire, sur la professionnalisation, qui voit le développement professionnel comme un volet de la formation continue et du perfectionnement. Donc là, on va avoir des approches, par exemple, qui vont dire que le développement, c'est ce qu'on met en place pour que les gens se développent, sans interroger, creuser, aller voir ce qui se passe du point de vue des personnes. Et une vision développementale qui, elle, voit le développement comme vraiment ce qui se passe pour la personne, et parfois avec des modèles très piagétiens qui définissent le développement en termes de stades. Alors, moi, je ne suis ni dans l'une ni dans l'autre. Je vais vous montrer après comment je vois le développement. En tout cas, quand je parle de développement, je commence souvent par faire référence à cette définition de Portelance et collaboratrice qui me paraît intéressante. Donc voilà, je ne vais pas la lire en entier, mais en tout cas, elle me semble intéressante parce que elle évite deux écueils. Elle évite l'écueil de dire que le développement, c'est ce qu'on met en place pour qu'il y ait développement, puisqu'elle, elle s'intéresse aux apprentissages, aux transformations des acteurs. Ça me paraît déjà un premier point, c'est-à-dire regarder le développement, non pas de ce qu'on met en place pour qu'il y ait développement, mais de ce qui se passe réellement, ce que la personne transforme. Et puis la deuxième, c'est qu'elle lie aussi compétence-identité, ce qui laisse à penser que le développement peut être vu du point de vue de la personne globale. Toutefois, moi, je vais préciser tout de suite les éléments que j'ai mis en gras, qui sont les points auxquels je m'intéresse particulièrement. Alors, moi, je m'intéresse donc particulièrement au développement des compétences. Dans d'autres contextes, je parle vraiment, on m'invite pour parler des compétences, jamais en tout cas de l'identité professionnelle, bien que ce sujet soit particulièrement intéressant et porteur. Personnellement, je lis compétences et compréhension du travail et de l'activité, hein, donc l'agir, c'est pour ça que j'ai mis en gras l'agir et atteindre un nouveau degré de compréhension du travail, mais pas que du travail, nouveau degré de compréhension du travail, de l'activité. Et je partage bien sûr l'idée d'un processus graduel, c'est pour ça que j'ai mis processus en caractère gras. Je vais essayer de présenter un peu mes fondements théoriques sans aller très très loin sur cette question. Donc le développement comme processus continu, donc je vais vous tracer à grands traits le développement. Mes sources principales sont les travaux de Vygotsky. Alors Vygotsky, par contre, c'est le développement de l'enfant, et de Léontiev sur la théorie de l'activité, pour ce qui concerne les précurseurs, et sur les travaux plus récents, Michel Brossard, Bernard Schlüvly, Frédéric Saussé, et un certain nombre de chercheurs, et un certain nombre de chercheurs de l'école de Genève sur le développement. Donc, le développement processus continu, Vygotsky, le développement est un processus incessant d'automouvement. Alors, automouvement, là, on va me dire, ah ben alors, quelle différence avec Piaget ? En fait, chez Vygotsky, le nouveau émerge de l'union dialectique entre mouvement interne et milieu. Ça, c'est très important de le situer. C'est-à-dire, c'est pas du tout dans la même conception que Piaget, où l'enfant est porté par son développement pour agir. Et c'est un processus d'automouvement dont la source est externe, dit Michel Brossard. Le moteur du développement est la contradiction. Et la contradiction trouve sa dynamique dans une lutte des contraires. Ce qui devient, dans certaines approches, hein, plus néo-piagétiennes, on va dire, le conflit socio-cognitif, qui n'est pas une notion que j'aborde, mais dont je perçois qu'elle a effectivement un lien avec cette dimension de lutte des contraires. Et puis, en même temps, on parle d'un processus continu, donc on a l'idée d'une certaine continuité. En même temps, il est question de moments. Vygotsky suggère qu'analyser le processus de développement, ça revient à saisir le déploiement dynamique des moments qui en constituent le cours. Donc cela rejoint l'idée de périodisation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des phases de développement. Et j'ai un petit peu abordé cette question lors du colloque Vygotsky de 2018. Alors moi, je m'intéresse à cette tension qui me semble émerger entre un processus d'automouvement, l'idée de mouvement, donc une idée qui véhicule l'idée que ça peut être un processus continu, et cette idée en même temps qu'il y a des moments dans ce processus qui vont être des moments clés, donc des sortes de moments de transformation puis d'état stable. Donc j'en parlerai lorsque je vais aborder mes travaux les plus récents sur les trajectoires de développement. Mais avant, je voudrais donc compléter ces fondements en précisant l'importance de situer le développement dans le passage de l'interpsychique à l'intrapsychique. Alors c'est peut-être un peu abstrait, mais pour situer rapidement la loi fondamentale du développement sans vous en donner toute la définition, vous allez voir que l'approche de Vygotsky est vraiment fondamentalement différente de celle de Piaget. C'est qu'il dit que les processus de développement ne coïncident pas avec ceux de l'apprentissage, mais suivent les derniers. C'est le contraire de chez Piaget, évidemment, où on dit c'est parce qu'il y a développement qu'il y a de l'apprentissage. Alors, dans cette approche-là aussi, les fonctions psychiques, elles apparaissent d'abord dans des activités sociales, puis comme propriété interne de la pensée. Alors, ce qui est important dans cette théorie du développement, c'est que les acquis du genre humain, tout ce que l'humanité a produit, que ce soit en termes d'outils, voilà, on imagine aisément la progression des outils, avec tout ce qui a été fait dans les premiers outils qui se prenaient à la main, les silex, etc., la mention de la roue, qui est une vraie, un acquis du genre humain qui va transformer énormément de choses. Puis on voit bien sûr, si on pense aux découvertes les plus récentes, les ordinateurs qui transforment les activités, puis on voit leur déploiement au niveau mondial. Donc on voit bien que c'est un acquis du genre humain qui touche pratiquement, parce qu'on ne peut pas dire tout le monde, mais qui touche pratiquement toute l'humanité. Et puis, il y a évidemment tous les instruments psychologiques. Là, on est dans des léas, donc on voit qu'il y a des questions importantes sur les concepts mathématiques, le langage, etc. Donc évidemment, les acquis du genre humain, ce ne sont pas que des outils, hein, ce sont aussi tous ces concepts, ces modèles, ces théories qui permettent de penser le monde et qui continuent à évoluer, hein, qui sont jamais fixes, hein, qui continuent à évoluer au fil de l'histoire de l'humanité. Dans cette théorie, on le voit, l'appropriation du social est posée comme une condition du développement et non pas comme une conséquence. Donc c'est vraiment en ça que c'est très différent de l'approche piagétienne. Et Vygotsky dit, en agissant sur la nature extérieure pour la transformer, l'humain modifie sa propre nature. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de ce processus ? Bien, c'est la notion de médiation, une notion que Vygotsky emprunte à Marx, le philosophe, hein, pas le politique. Il dit, l'humain se sert d'instrument pour agir sur le monde, un élément intermédiaire entre l'activité de l'homme et l'objet externe. Alors, dans cette théorie, on mesure donc que le développement est social, d'une part parce que, comme je vous l'ai dit, les objets qu'il faut s'approprier, les outils, les signes, sont socialement élaborés, ils cumulent tout le développement de l'humanité, mais en même temps, l'apprentissage, et en particulier si on pense aux jeunes enfants, est toujours social, c'est-à-dire que l'apprentissage va se faire parce qu'on va montrer les usages sociaux de ces objets, parce que les parents vont montrer le langage, parce que en bricolant, on va montrer l'usage d'un marteau, d'une pince, parce que l'école va montrer les usages sociaux des théories, des théorèmes, etc. Donc le développement est social, et donc il y a bien quelque chose qui part de l'externe pour aller vers l'interne. Alors, maintenant je vais situer les enjeux de mes travaux, je les présente un petit peu à la fin, excusez-moi, mais en tout cas ce qui me porte depuis quelques années, c'est de comprendre le développement professionnel dans le monde du travail et les conditions qu'il permet. C'est pour cela que je travaille à forger la notion de trajectoire de développement et à l'outiller du point de vue méthodologique. Et puis une autre dimension qui est de provoquer et soutenir un processus d'apprentissage et de développement professionnel chez les participants. Alors je dis aux recherches collaboratives, mais encore une fois, ce mot-là n'est pas théorisé dans mon approche. Mais comment finalement, dans les recherches que l'on mène avec des praticiens, est-ce qu'on peut investiguer les processus à l'œuvre, comprendre l'agentivité et puis étudier les fonctionnalités des outils numériques qui peuvent jouer sur les processus, parce que avant de venir ici, à l'INRP puis à l'IFE, j'avais déjà une petite histoire avec le numérique. Donc, je vais commencer par ce point, donc comment les recherches collaboratives, encore une fois, au sens large, comment j'essaye de provoquer et de soutenir un processus d'apprentissage et de développement professionnel chez les participants. Et là, je vais m'appuyer sur les travaux qui ont été menés dans le Léa Germaine Tillon de Saint-Bel. Alors, l'objet qui nous rassemblait enseignants et chercheurs et autres, vous allez le voir après, c'était la question de l'orientation. La question de l'orientation était une question vive en 2009, avec la circulaire de rentrée 2009 qui stipulait que les équipes éducatives, dont les enseignants, ça c'est vraiment un extrait qui était dedans, devaient accompagner la construction du projet d'orientation de l'élève. Alors c'était une question vive pour les enseignants avec qui on a travaillé. On a eu l'impression que finalement nos travaux n'ont pas forcément été entendus tout de suite. Mais maintenant, c'est redevenu, me semble-t-il, une question vive avec... même dans le supérieur, où on pose la question, par exemple, des parcours d'apprentissage et de développement des étudiants. Alors, nous portions, en tant que chercheurs, une vision de l'orientation, l'approche orientante. Alors, ce n'était pas à la mode en France à l'époque. Hein, c'est une notion qui est née, comme souvent, en Amérique du Nord. Hein. C'est une vision de l'orientation qui suggère de développer chez le jeune à la fois la connaissance de soi et la connaissance du monde qui l'entoure, pour lui permettre des choix éclairés. Mais pas de faire un petit peu de connaissance de soi, un petit peu de connaissance des métiers et des formations, mais vraiment de provoquer, de soutenir la construction de la connaissance du soi et du monde de manière interdépendante, de permettre le développement d'une meilleure connaissance de soi dans son contexte, dans un article que nous sommes en train d'écrire avec une équipe européenne. Des objectifs de production de ressources, des objectifs de développement professionnel, des objectifs de développement professionnel des enseignants à l'heure du numérique, des objectifs de recherche, tout ça, ça faisait partie du projet, puisque nous étions dans une recherche financée par le ministère, qui était le suivi recherche du projet de formation continue des enseignants performance, projet, programme. Voilà, donc on avait tout ça. On avait à la fois produire des ressources, c'était une demande stipulée hein, dans notre projet. On avait un mouvement général qui était de soutenir le développement, de soutenir la formation numérique des enseignants. Et puis, bien sûr, notre problématique sous la responsabilité de Luc Trouche, qui était d'investiguer les processus d'appropriation. Alors, les acteurs de notre réseau, j'en ai déjà parlé, il y avait des enseignants. Pas que, il y avait deux équipes de deux participants, donc deux enseignants dans un lycée, un enseignante et... ce qu'on appelait à l'époque une conseillère d'orientation psychologue dans un collège. Et puis nous avions aussi le rectorat de l'Académie de Montpellier, en particulier le XAIO de l'Académie de Montpellier qui participait, qui était impliqué dans le projet. L'ONICEP de Languedoc-Roussillon avec la participation de deux personnes, dont Daniel Ferré qui avait été un des précurseurs de l'approche orientante en France, en développant en tout cas l'idée que cette approche orientante était la piste à suivre pour soutenir l'orientation des élèves. Et puis nous avions aussi un ingénieur pédagogique avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant de longues années, Pierre Bénèche, qui est parti de l'IFE, mais c'est quelqu'un qui a été un grand contributeur dans les recherches. Et puis deux chercheurs en psychologie. Donc moi, mon entrée plutôt psychologie du développement. Et Stéphanie Maï-Viermès, qui était plutôt dans une approche psychologie cognitive. Voilà. Ça s'est passé avant le réseau DELEA, juste avant. Et puis il y a eu la création du réseau DELEA. Donc là, on a remis le projet dans le réseau DELEA. On a travaillé avec une équipe du Léa Germaine-Tillon de Saint-Bel, donc avec quatre enseignants d'anglais, un soutien très fort de l'équipe de direction, et puis une enseignante de Montpellier qui était de la première recherche, qui a continué à travailler avec nous. Le dispositif déployait deux espaces, un espace physique. L'espace physique, c'était un lieu de rencontre, un dispositif groupal. Alors, dispositif groupal d'inspiration psychanalytique, il ne faut pas l'entendre comme on ne faisait pas de la psychanalyse, hein, mais je vais dire que ça fournissait un cadre de confidentialité, d'approfondissement de la parole sur les pratiques. Donc le groupe se réunissait tous les deux mois au rectorat de l'Académie de Montpellier. Et puis nous avions un espace numérique, à la fois c'était lié au projet, puis à la fois c'est à ce que j'apportais de numérique depuis mon arrivée ici. Donc un environnement numérique constitué d'un blog collaboratif et d'un journal de bord en ligne. Le dispositif soutenait la formalisation et l'analyse de l'activité. Donc les acteurs, les enseignants en particulier, qui créaient les situations à mettre en œuvre dans les classes, devaient à la fois les décrire sans masquer tout ce qui pouvait être en jeu, hein, les rapports à la hiérarchie, aux pairs, aux élèves. Et puis ils devaient aussi expliciter l'agir, on en avait besoin hein, pour produire nos ressources, mais sans masquer les freins potentiels. Ce qui, tout cela, pouvait potentiellement permettre un développement. Alors, bien sûr, se pose la question de la vision du chercheur. Qu'est-ce que, dans une recherche de ce type, la vision du chercheur, on ne peut pas en faire abstraction, hein, c'est sûr. Comment nous, on l'a instancié ? Eh bien, c'est notre vision, la vision des chercheurs, j'aurais dû mettre un E, elle était à la source de la conception de la situation de recherche, alors collaborative, encore une fois, non problématisée. Le blog du projet, le blog que nous avons utilisé, puisque nous avons dit d'emblée aux enseignants, nous allons travailler sur un blog collaboratif, ça s'appelle comme ça. Nous l'avions conçu avec Stéphanie Maille-Viermès et Pierre Bénèche comme un portfolio collectif, qui était à la fois le support de la matérialité des objets. On y mettait les ressources produites, à la fois des ressources, bien sûr, in fine, les ressources finalisées qu'on allait rendre visibles dans le parcours performance, mais également toutes les ressources, les productions intermédiaires sur lesquelles le groupe travaillait en continu. Et puis, c'était aussi un espace de conceptualisation, de mise en mots, en particulier avec le journal de bord. Alors, la dynamique des échanges, donc, c'est une problématisation que j'ai faite un peu plus tard, plutôt quand j'ai préparé mon HDR, c'est que la conceptualisation de l'orientation, c'est-à-dire l'aspect un petit peu conceptuel, savoir, hein, il était imbriqué avec l'utilisation du blog, avec un rapport dialectique entre les visions de l'orientation au cœur de l'activité. Parce que les visions de l'orientation, on était en tout cas il y a 10 ans, vous voyez, il y a 10 ans, hein, donc on était, les visions de l'orientation changeaient, hein, l'orientation était quelque chose de, on orientait l'élève, et puis d'un seul coup on disait, on n'oriente plus l'élève, on va essayer de se mettre en place, de mettre en place un processus d'approche orientante. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on est dans une recherche collaborative qu'on va pas impulser notre vision de chercheur. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter ? Alors, je vais commencer par les apports de cette recherche du point de vue des genèses instrumentales, donc, qui était le cœur du projet Performance mené par l'équipe de recherche donc, de l'IFE, pilotée donc, par Luc Trouche. Donc, du point de vue des genèses instrumentales, voilà des types de production des enseignants. C'est-à-dire que je vous ai montré dans la diapo précédente le blog du projet, hein, le blog mis en place par l'équipe de recherche. On voit que cette idée de mobiliser des blogs collaboratifs a été reprise par les enseignants, donc à plusieurs niveaux. Donc les enseignantes de lycée, ça a été un petit peu différent au collège, hein, mais les enseignantes de lycée ont créé des blogs de classe, un blog propre à leur classe. Donc par exemple en anglais, I Act, I Fly, dont j'ai présenté une image sur ma diapositive, La Ruche en lettres modernes. Et donc chacune des enseignantes explicitait ses activités pédagogiques autour du projet INO, bien sûr, et puis le scénario qu'elle concevait sur l'orientation. On le voit aussi des blogs, un blog personnel. Donc là, il n'y a eu qu'une enseignante, hein, surtout les gens du projet. Une seule enseignante a mis en place un blog personnel, donc où elle analysait son projet, elle mettait en mots comment elle construisait le projet, elle en analysait le déroulement, etc. Donc ici, on serait un peu sur un portfolio d'apprentissage, mais qu'elle avait quand même rendu public. Et puis, dernier blog que je présente, hein, parce qu'il y en a eu plein, un blog d'élèves qui a été mis en place dans le Léa Germaine Tillon de Saint-Bel, voilà, où l'élève élabore son propre blog avec ses collectes sur la connaissance de soi et sur les métiers. Et puis chaque fois qu'elle étudie un métier dans les ressources disponibles sur Internet ou sur le NICEP j'ai oublié le nom, pardon, de l'époque, qui, ça a changé depuis, enfin en tout cas sur les ressources qu'elle trouvait sur le site de l'ONICEP, eh bien chaque fois elle devait se poser la question d'elle, comment elle, ce qu'elle commençait à percevoir d'elle-même, de ses goûts, de ses envies, résonnait avec ce qu'elle découvrait. Alors après, j'ai interrogé finalement, après coup, une analyse secondaire, quels étaient les ressorts développementaux de cette recherche. Alors, donc l'objet de notre recherche était la construction d'une vision développementale de l'orientation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais l'approche orientante, c'est ça, hein, c'est une vision développementale de l'orientation. Le dispositif, donc, il permet instrumentation, instrumentalisation, on l'a vu, hein. On a un bloc collaboratif de projet. Les enseignants font quelque chose, soit pour eux-mêmes, soit avec leurs élèves. Et puis, quand même, si l'on étudie leur représentation sur l'orientation au fur et à mesure du projet, par exemple par les entretiens qui ont été réalisés et analysés, on voit qu'il y a un développement de la conceptualisation de l'orientation dans une approche développementale. Alors... les activités des participants au projet, en quoi ont-elles été des ressorts développementaux? Eh bien, nous avions une activité finalisée avec un versant, on va dire, productif, puisqu'il fallait produire un parcours, mais ancré dans les préoccupations des acteurs. L'activité finalisée, ça me paraît quelque chose de... Enfin, je veux dire, toute activité est finalisée. Si on n'arrive pas à définir une finalisation de l'activité commune, on peut avoir des blocages des acteurs. L'idée, c'est vraiment de se dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quelle va être la finalité de ce que l'on peut faire ensemble? Et puis, bien sûr, cette mise en mots des manières d'agir, qui est à la fois un moyen de reconfigurer son expérience et puis de travailler éventuellement sur son propre rapport à l'expérience que l'on a vécue. Dernier ressort, c'est le collectif. Donc avec cette construction du sens, cette construction collective du sens à donner à l'activité, et puis la mise en débat des manières d'agir, des logiques de fonctionnement au sein de ce dispositif groupal. Alors, ces travaux, c'est aussi l'acte de naissance de mes travaux sur les trajectoires de développement. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est intéressant d'avoir mené cette recherche, mais finalement, qu'est-ce qui vraiment, dans le projet, a permis aux enseignants d'apprendre, de se développer, de transformer leur agir, de transformer leur concept de l'orientation? Donc j'ai commencé à élaborer d'une manière, à ce moment-là, extrêmement succincte, ce qui allait devenir par la suite la méthode trajectoire. Alors, je vais parler maintenant des trajectoires de développement. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. C'est bon. Oui, bon, vous me ferez des étiquettes, 10 minutes, 5 minutes. Il faut conclure. Alors, cette méthode trajectoire, je l'ai expérimentée dans un premier projet, enfin, pas dans un premier, puisque j'avais initié dans INO, mais je l'ai vraiment, on va dire, j'ai forgé mes outils dans le cadre d'une recherche qui s'appelait REVEA, qui n'était pas du tout une recherche collaborative. Enfin, moi, en tout cas, je venais vraiment faire mon recueil de données assez classique dans cette recherche REVEA, qui était un projet ANR, donc financé par l'Agence nationale de la recherche. Mais ça tombait au moment où j'avais besoin d'approfondir, d'affûter mes outils. Donc, elle tombait très bien, cette recherche. Et puis, elle avait un autre intérêt. C'est qu'elle se situait, elle aussi, à un moment où il y avait des transitions importantes, des changements avec le déploiement du numérique, avec de nouvelles demandes institutionnelles, comme la transformation de l'évaluation de l'oral en langue, l'épreuve du baccalauréat, la réforme des programmes, etc. Donc il y avait des vrais changements dont je me disais, potentiellement, ça a pu faire un effet sur ce que je vais récolter. Et puis... ça va me permettre à la fois d'affûter mes outils et puis de voir si les pratiques des enseignants se transforment quand il y a des demandes institutionnelles. Alors, je vais faire très très vite le double ancrage méthodologique avec une entrée dans les récits de vie comme un instrument méthodologique. Donc ça, les récits de vie, ce sont des entretiens individuels pour dire l'expérience. Alors moi, pour moi, c'est pour dire l'expérience vécue, hein, c'est pas pour raconter sa vie. l'expérience vécue des apprentissages et du développement professionnel. Je me centre là-dessus. Et puis, Bertaudy, c'est une fusée éclairante du contexte traversé. Alors moi, je ne m'intéresse pas, je ne suis pas sociologue, je ne vais pas m'intéresser exclusivement au contexte. Néanmoins, on le voit par les questions que je pose vis-à-vis du contexte. On voit que mon approche vygotskienne est au fond de la problématique, c'est-à-dire comment le rapport au milieu est-il médiatisé par les groupes sociaux auxquels appartient la personne, le groupe social qu'elle rencontre dans l'établissement, mais peut-être d'autres groupes sociaux, et c'est souvent le cas. Par exemple, certains enseignants sont dans le GFEN, par exemple. Sur quels aspects du développement les pratiques sociales qui médiatisent ce rapport dans le contexte de travail jouent-elles ? Est-ce qu'on est sur une construction identitaire, sur un outillage par rapport à certaines pratiques, etc. ? Quelles sont les caractéristiques de ces environnements ? Mais tout cela orienté sur la question des apprentissages et du développement. Et puis doublé d'une métaphore visuelle, la représentation d'une route. Donc il y a une double activité sémiotique que je vais illustrer maintenant à travers une trajectoire recueillie dans Revea, où on voit ici donc un contexte de transformation du monde du travail avec beaucoup de transformations d'outils, avec vous ne pouvez pas lire sur les post-it, hein, parce que là, j'ai essayé d'en mettre un maximum pour qu'il y ait une trajectoire entière. Mais dans le premier entretien, celui qui a lieu au début de la recherche Revea, la personne est très centrée sur comment le déploiement du numérique a transformé son activité pédagogique. C'est elle qui fait un choix. Hein. Moi, je ne parle pas de numérique à ce moment-là. Hein. Bon, le tout premier... Bon, on le voit vraiment très mal, mais le tout premier post-it, c'est quand elle arrive dans un établissement où le matériel, donc c'est quelqu'un qui est en SVT, hein, donc il y a potentiellement du matériel, il arrive de ses premières années en région parisienne, il n'avait pas accès au matériel. Le matériel est enfermé dans des armoires et lui, jeune prof, n'avait pas les clés de ses armoires. Là, il arrive dans un établissement, il y a du matériel, il y a une aide de laboratoire. Et c'est avec elle qu'il va construire un milieu pour apprendre à se servir des outils. Donc c'est assez parlant parce qu'en plus, vous allez voir, ce n'est pas toujours aussi simple à lire. Mais là, on le voit, chaque moment où il découvre quelque chose de nouveau, il s'engage à fond dans une activité. Puis au bout d'un moment, il se dit « Non, mais là, j'ai perdu mes objectifs d'apprentissage. Je reviens. » Donc, ce n'est pas des voies sans issue, c'est cette espèce de petite route, mais c'est qui part à fond, on va dire, sur des nouveautés. Puis après, il prend du recul et il revient à un usage raisonné de ce qu'il a appris. Et puis, voyez toutes ces flèches. Alors, je ne donne pas de détails parce que c'est une des trajectoires que j'ai le plus analysées, présentées, mais c'est la réforme des programmes. Alors là, on voit qu'il y a plein de routes qui partent, ça transforme beaucoup de choses. Alors maintenant, on va s'intéresser aux trajectoires que j'ai recueillies dans un autre contexte, une recherche donc, qui a une dimension collaborative, la recherche PREMAT, qui est un projet de l'Institut Carnot de l'éducation, qui a été évoqué tout à l'heure par des collègues de ce projet et dont Luc Trouche était le porteur au niveau du projet de recherche. Alors PREMAT, c'est penser les ressources de l'enseignement des mathématiques dans un temps de transition. On retrouve cette idée de transition, c'est-à-dire quand il y a des changements, et c'est un peu quand j'ai parlé du Léargot tout à l'heure avant de commencer mon intervention, c'est un peu ça, il se passe quelque chose, il se transforme quelque chose. Dans le Léargot, c'est l'environnement matériel, hein, le collège qui est en travaux. Ici, ce sont d'autres types de transitions, transition des curricula, transition liée au numérique. Ce qui est une des caractéristiques du projet PREMAT, c'est un projet unifié entre acteurs de la recherche et acteurs des projets éducatifs, c'est-à-dire que bien que ce ne soit pas une exigence de l'Institut Carnot d'éducation, contrairement à ce que l'on demande dans les Léa, où vous écrivez votre projet en amont entre chercheurs et praticiens, enseignants ou autres, ici la demande n'était pas d'écrire le projet ensemble, mais nous l'avons écrit ensemble. Et nous avons collaboré ensemble à tous les niveaux avec donc les chercheurs et les enseignants, puisqu'ici, les acteurs du projet éducatif étaient les enseignants. Alors, nous collaborions à trois niveaux, celui des ressources didactiques, préalgèbre, algorithmique, donc ça a été présenté tout à l'heure. Le chantier 2, c'était un processus de design pédagogique et de recherche collaborative, c'était vraiment le cœur du projet. et on va voir tout à l'heure les effets que ça a pu avoir. Et puis, étude du développement professionnel des acteurs, à la fois pour approcher les bénéfices de la recherche collaborative et pour enrichir l'étude du développement professionnel. Alors moi, avec mon entrée trajectoire, mais aussi avec des vidéos pour analyser l'activité. Alors, deux trajectoires qui ont été recueillies en début et en fin de projet. Donc là, c'est plus court, hein, dans Révéa, entre les deux entretiens réalisés avec l'enseignant, la première trajectoire que je vous ai montrée, il s'est passé 4 ans. Hein, donc là, c'est très court. Il s'est passé 1 an et demi ou 1 an selon les deux trajectoires, selon quand a été recueillie la première trajectoire. Donc avant, à la fin de la recherche. Et puis, second degré, premier degré. Mes analyses du premier recueil ont concerné l'étude des dynamiques de développement. Donc je vais donner un exemple à travers une trajectoire, enfin un petit morceau d'une trajectoire, la trajectoire de SP, dont on voit ici qu'elle est professeure de mathématiques, donc dans le cycle 2, c'est-à-dire au collège. Alors comment j'essaye d'attraper une dynamique de développement, une dynamique de développement du pouvoir d'agir? Donc, ce pouvoir d'agir, il va concerner l'activité d'enseignement-apprentissage, qui est une grosse activité de l'enseignant. Hein, quand on regarde les référentiels de formation des enseignants, le dernier en date, il a 3 domaines. Il a l'enseignement-apprentissage, il a un domaine un peu plus collaboratif dont la finalisation de l'activité n'est pas forcément clairement identifiée, et puis il a le développement professionnel, c'est-à-dire les activités que l'enseignant doit faire pour continuer à se tenir à jour sur les transformations des savoirs, de la culture, des modalités d'apprentissage, etc. Donc moi, je prends un petit peu le truc central ici, enfin en tout cas l'exemple que je choisis est bien dans ce pôle central, enseignement, apprentissage, et... Oh, parfait. Et ce qui est en jeu, c'est le concept de grandeur. Et j'ai essayé de dégager la dynamique du développement à travers le discours recueilli par la méthode trajectoire, hein, cette méthode où je fais réaliser des post-it, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, des post-it, des discours, des routes, etc. J'ai essayé de voir, d'étudier la dynamique du développement à travers 4 phases de ce moment de changement, c'est-à-dire d'essayer de dégager quel est l'élément déclencheur, quelle est la contradiction, fameuse contradiction qui est le moteur du développement, hein, j'ai présenté succinctement tout à l'heure en parlant des cadres, le processus de reconfiguration et puis éventuellement l'émergence d'un troisième terme. C'est-à-dire il y a ce que la personne faisait avant, ce qu'on lui donne à s'approprier, et puis elle, ce qu'elle en fait, hein, ce troisième terme qui émerge. Alors évidemment, dans l'exemple choisi, que j'ai choisi, c'est chouette, il émerge quelque chose de nouveau. Alors que nous dit SP? Elle nous dit qu'au départ, avant ce processus, avant cette dynamique de développement du pouvoir d'agir, son cours sur les grandeurs consistait essentiellement à faire apprendre, appliquer des formules. Donc apprendre une formule, réaliser des exercices. Hein, c'est assez classique, hein, donc rien, on va dire, de vraiment étonnant. Les enseignants fonctionnent souvent comme ça. Elle dit, dans mes cours, c'était un chapitre assez rapide où on faisait calculer l'air de figures géométriques. Alors, l'élément déclencheur, c'est quoi? Eh bien, c'est la lecture d'une brochure de mathématiques de l'IREM. Et elle dit, c'est ce moment où tu remets tout à plat. Donc, cette lecture va déclencher quelque chose chez elle. Quelle est la contradiction perçue? Eh bien, elle perçoit une contradiction entre son activité actuelle, qui consiste à faire apprendre ce que c'est que la grandeur, appliquer des formules et essentiellement des mesures, hein, si on prend la phrase que j'ai citée tout à l'heure, et celle qui est suscitée dans la brochure, où il faut vraiment travailler sur le concept de grandeur. Alors je vous passe tous les aspects didactiques, hein, mais j'ai l'intention de travailler avec Yana Tregalova sur justement comment approfondir ce qui se passe du point de vue des apprentissages disciplinaires et didactiques, puisque moi je ne suis pas didacticienne des maths, hélas. En tout cas, il y a une dynamique qui se met en place avec mobilisation. Elle se dit là, peut-être que si ça avait été extrêmement difficile, elle aurait dit, non, c'est bien, mais je ne sais pas quoi en faire. Mais là, elle sent qu'elle va s'approprier la notion. Donc, elle va la mobiliser, renouveler son activité. Et en même temps, elle a le sentiment de prendre de la hauteur. Vous voyez, il y a cette montagne qui ne veut pas toujours dire la même chose, selon les trajectoires. Mais sur ce moment précis, de cette trajectoire-là, la montagne, c'est qu'elle prend de la hauteur. Et au final, que fait-elle ? Eh bien, elle réinvente des activités pour que ses élèves travaillent sur le concept de grandeur. Et elle-même, on sent qu'elle s'est appropriée autrement, de manière, on va dire, plus théorique et conceptuelle, le concept de grandeur. Alors, il y a des publications en cours là-dessus, donc je ne vais pas trop donner de détails, puis il y en a une future. Voilà. Et puis la reconfiguration, eh bien évidemment, c'est que les activités sont très très différentes. Par exemple, elle va partir d'une image, elle va demander à faire des calculs de grandeur sur une image, par exemple. Donc du coup, les élèves n'appliquent pas des formules, ils doivent se débrouiller pour savoir comment ils vont travailler la grandeur et après, elle fait émerger ce concept de grandeur. Alors, les changements pendant Prémat, il y a un élargissement des domaines d'activité. Alors 1 et 2, c'est l'enseignant du premier degré, 2, c'est l'enseignante de mathématiques, dont j'ai présenté un morceau de la trajectoire. Devenir formateur pour l'enseignant de premier degré. Donc on voit un élargissement du domaine d'activité. Il était enseignant jusqu'alors. Et là, il devient formateur à l'INSPE, organiser un colloque pour l'enseignante de mathématiques, un partage de l'expérience. Tous deux disent qu'ils ont élaboré des ressources partageables. Donc, vous voyez, tout ce recul sur les ressources produites. Et puis, ils ont communiqué dans des... Deux nous dit qu'elle a communiqué dans des colloques scientifiques. Donc, un partage de l'expérience, on va dire, un peu plus conceptuel. Développement de l'agir, développement de l'activité mathématique, de l'idée de préalgèbre à celle de pensée algébrique. Donc, là, je vais pas développer ce point-là. Et puis, un autre aspect important qui sera dans un atelier de cet après-midi, c'est que les outils du chantier 2, Design Thinking, World Café, carte d'expérience, eh bien, ces outils du design thinking qui outillaient la recherche collaborative, ils ont eu des effets sur le travail collectif en classe et en formation chez les acteurs du projet, et puis un effet aussi sur la réflexivité sur les pratiques. Donc, en tout cas, un potentiel développement, il me semble qu'on est vraiment dans la perspective d'un potentiel développement. Développement de la confiance en soi. Alors ça, c'est une dimension de le rapport à soi dans l'activité. Je ne vais pas vous développer le modèle, je passe très vite, mais oser prendre la parole en plénière, là ça concerne surtout l'enseignant de premier degré, oser prendre la parole en plénière, s'intégrer dans une équipe avec des enseignants du second degré, contribuer à l'organisation de l'équipe de recherche. Donc toutes ces activités que cette personne a dû faire ont contribué à développer la confiance en soi, ce qui est très très intéressant du point de vue de l'activité, puisque le rapport à soi participe de l'activité. Et puis, un développement de la vision de l'élève, penser le parcours de l'élève, c'est-à-dire penser les mathématiques, là c'est deux, donc c'est le professeur de mathématiques. Le parcours de l'élève, c'est-à-dire pas penser l'apprentissage des mathématiques dans l'ici et maintenant, je fais ma leçon, je vais l'évaluer, mais le penser dans un parcours d'apprentissage sur la durée de l'année et peut-être au-delà, la durée du cycle, etc. Et ça, ça m'a paru vraiment très, très intéressant pour moi qui m'intéresse par ailleurs au parcours, même si c'est le parcours d'orientation. Et puis, des processus de diplomation, préparer un master, bien sûr. Donc, on voit ici le développement de la pensée. L'enseignante interrogée y voit aussi le développement de la pensée problématiser, conceptualiser, argumenter, qui transcende les disciplines. Ça, c'est vraiment très, très intéressant comme extrait de discours. Alors, je vais passer un peu vite, mais voilà. Donc ça, c'est un petit bout de la grande trajectoire, la première, là, qui avait plein de petites routes, plein de petites routes. J'ai extrait de cette trajectoire un morceau qui concerne le développement de l'agir en lien avec les méthodes agiles, hein, design thinking, work café, carte d'expérience. Alors, tous ces apports méthodologiques du projet sont l'élément déclencheur, et ça, on le retrouve dans les discours des personnes que moi j'ai interrogées dans le cadre des trajectoires, mais également dans d'autres recueils de données qui ont été faits dans le cadre du projet, où ces méthodes agiles, elles ont vraiment été perçues comme source d'un potentiel développement par, on va dire, tous ceux qu'on a pu interroger, approcher. Sur les effets de la recherche Prémat. Donc il y a un effet direct sur le travail collaboratif, c'est-à-dire que puisqu'on vit de l'intérieur une activité collaborative, il y a un désir de reproduire ça, soit dans les formations qu'on mène à l'INSPE, soit avec les élèves. Il y a une sorte d'envie de reproduire ça dans la recherche, à un niveau, on va dire, un peu plus local, puisque le projet ICE, mais c'était un Léa aussi, impliquait une grosse équipe avec parfois plein de chercheurs, parce qu'on a eu des visites de chercheurs du Brésil, du Japon, de Chine, un peu de partout. Donc, parfois des besoins, et ça je trouve que c'est particulièrement intéressant, des besoins de remettre au travail ces modalités, de refaire une mini-équipe de recherche, on va dire, au sein de ce qu'on a appelé dans le projet les petites fabriques. C'est-à-dire qu'on avait la grosse fabrique, hein, le projet, l'ensemble des acteurs impliqués, avec ses temps, World Café, etc. Ça brassait beaucoup de monde. Mais un besoin de se ressaisir de l'expérience vécue au niveau du LIPEN, hein, le lieu où on faisait ces grandes réunions, eh bien, de s'en ressaisir au sein d'un groupe plus restreint, intéressé à une activité orientée vers ce qu'on va mettre en œuvre réellement avec les élèves, hein, non plus la grande dimension recherche, mais ce qu'on va mettre en œuvre pour concevoir le parcours mathématique des élèves avec les enseignants du primaire, les enseignants du collège, mais impliqués, on va dire, dans un même secteur, avec une même des gens avec qui on va contribuer sur le long terme. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, un effet, bien sûr, sur l'activité enseignante et de formateur. Un autre extrait qui est donc plutôt d'épée, donc enseignant premier degré, développement de la confiance en soi et nouveaux engagements, nouvelles activités. Donc là, c'est la prise de parole qui est l'élément déclencheur ici. C'est le fait de devoir prendre la parole publiquement. Alors c'est des gens, bien sûr, les enseignants, ils prennent la parole publiquement en permanence, hein, puisqu'ils sont enseignants par nature. Mais là, de prendre la parole dans un groupe où il y a des chercheurs, des enseignants du second degré, etc., cette personne dit que ça a développé la confiance en soi. Ça a aussi développé une vision élargie du système, c'est-à-dire voir que finalement, on dit... En primaire, on s'occupe de l'élève, on le prend dans sa globalité. Oui, non, mais au collège, c'est plus du tout ça, il n'y a plus de globalité. Ben, voir que ce n'est pas forcément vrai partout. Et puis, bien sûr, au final, cet engagement dans de nouvelles missions. Alors, pour conclure, combien de minutes, madame ? Ah, conclusion hâtive. Alors donc, je voulais ouvrir quelque chose qui sera mes prochains travaux, donc c'est encore à l'état d'ébauche, sur le système d'activité. Donc l'activité à laquelle on pense le plus, c'est l'activité productive, hein, où un sujet transforme un objet grâce à des outils et des signes médiateurs, et avec la finalité donc de transformer cet objet. Alors j'ai fait dans une présentation récente l'enseignant, donc engagé dans ses activités d'enseignement-apprentissage, donc lui, ce qu'il essaye de transformer, c'est l'élève ou l'étudiant, et de les transformer comment ? Eh bien, en soutenant chez eux des apprentissages, et le chercheur, lui, dans le cas général, avec ses outils, instruments liés à sa discipline de recherche, bah, il essaye de transformer les objets de sa recherche pour en tirer des savoirs. Et finalement, le chercheur en psychologie du développement, il a, en quelque sorte, une double visée. Il a bien sûr l'objet de sa recherche, dont il va devoir tirer des savoirs. Ça, c'est son travail de chercheur. Mais en général, il vise aussi une transformation chez le participant une transformation en termes d'apprentissage et de potentiel développement. Alors du coup, j'ai essayé de... Enfin, je travaille, puisque j'ai soumis une petite communication, pour essayer de mettre au travail cette articulation des chercheurs qui seraient impliqués dans les LEA ou plus généralement dans les recherches où il y a une dimension collaborative, collective, pour voir finalement l'objet au travail, donc la pensée algébrique. D'un côté, on essaye de continuer à la conceptualiser, de l'autre côté, on contribue à la conceptualiser, mais on a aussi un besoin immédiat de faire apprendre les élèves. Et puis également, la vraie question, on va dire, enfin la grosse question, c'est comment le chercheur peut agir sur le participant pour lui permettre de transformer son milieu ou les apprentissages des élèves. Pardon d'avoir dépassé. Désolée.